Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous pour ces 2 heures et nous commentons l'actualité entre 11h et midi avec aujourd'hui Sandra Rogol, bonjour. Secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Brice Nkonda, vous êtes conseiller régional UDI d'Île-de-France, bonjour à vous. François Monboise, président de la FEVAD, c'est la Fédération Européenne de Vente à Distance. Et Régis de Castelnau qui est avec nous par Zoom, bonjour. Je crois. Bonjour, on vous voit absolument, vous êtes avocat. Votre blog c'est Vue du droit et vous êtes également membre de la rédaction de Causeur. Loi Avia censurée, une bonne nouvelle? Point d'interrogation, je pense que oui pour beaucoup de gens. Affaire Fillon, le procureur admet des pressions. L'élection présidentielle 2017 a-t-elle été faussée? Et puis notre sondage IFOP Sud Radio pour CNews et donc Sud Radio, 47% des Français pensent que le racisme anti-blanc existe. Et vous, qu'en pensez-vous? Et puis on parlera également de la convention citoyenne. Beaucoup de sujets. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Commençons peut-être avec vous, Brice.
Oui, Valérie. En fait, ouais. Ce matin, je regardais une vidéo d'Edgar Morin que j'aime beaucoup. Et en gros, en substance, cette vidéo disait que il y avait une absence de projet politique, de nouvelles idées qui nous permettent de nous projeter positivement dans l'avenir. Et je pense que c'est tout à fait exact. C'est pas qu'il n'y a pas de projet politique. On a la transition énergétique, mais finalement, j'ai l'impression que la transition énergétique, elle a bien été comprise par tout le monde comme une nécessité. Donc en fait, c'est plutôt une nécessité que quelque chose qui nous enthousiasme. En tout cas, les écologistes, je ne doute pas que vous soyez très enthousiastes sur le sujet. Il faut y aller. Mais on n'a pas ce projet fédérateur. On a au contraire une archipélisation de la société où chacun se retranche dans son camp plutôt que de faire quelque chose qui soit cohérent et qui nous permette de faire nation tous ensemble. Ouais. Donc je suis d'accord avec ça et c'est pour le coup un coup de gueule. On n'a pas encore ce projet-là qui a émergé. On n'a rien de nouveau. On gère le déclin. C'est mon impression en tout cas.
Ouais, c'est un peu ce que disait aussi Rafik Smati hier. Régis de Castelnau, coup de cœur?
Oui, coup de cœur. En ces temps où on parle beaucoup de racisme, il y a eu beaucoup de tensions. J'ai vu les résultats du sondage. Et on a appris hier la nomination à la direction de l'école de guerre, excusez du peu, hein, ce qui est un des plus hauts postes de l'armée, du général de brigade d'aviation qui s'appelle Jean-Marc Vigilant. Ça ne s'invente pas un nom comme ça. Et il se trouve que Jean-Marc Vigilant est noir. Hein, et qu'il accède tout à fait normalement et naturellement, parce qu'il faut connaître son cursus, ses états de service, comme on dit dans l'armée. Hein, voilà quelqu'un qui est rentré à Salon de Provence, il est passé par toutes les étapes, il est breveté école de guerre, etc. Et je trouve que c'est un joli message qu'on envoie. Pas de, manifestement, aucune promotion, je veux dire, à la couleur. Au contraire, je dirais, tout ça est parfaitement normal. Il bénéficie d'un très grand respect dans l'armée. Et je trouve ça pas mal quand on accuse l'État français de racisme systémique. Quand effectivement, on s'en donne les moyens, eh bien, on peut réussir aussi brillamment que Jean-Marc Vigilant, hein, ouais, que le militaire s'appelle Vigilant, c'est quand même une prédestination probablement.
Moi, voilà. J'ai une vraie question hein, que je me pose à chaque fois que je vois ces annonces, c'est-à-dire est-ce que c'est pas raciste que de le signaler? C'est comme si c'était quelque chose d'exceptionnel et qu'il fallait le signaler. Je ne sais pas très bien comment le formuler, mais c'est de la même manière quand on annonce une femme. J'ai vu qu'il y avait une femme qui avait été nommée, je ne sais plus à quel poste. Il y a un côté...
C'est le fameux « on en a un dans notre famille ».
Oui, c'est un peu ça. Ça montre l'exceptionnel, effectivement, ce que dit Sandra Rogol de la chose.
Ce qui est exceptionnel, c'est qu'effectivement, il est d'origine antillaise. Hein. Ce qui est exceptionnel, effectivement, c'est que, statistiquement, en dehors de ceux qui font les écoles militaires de Saint-Cyr, où il y a beaucoup de personnes de couleur parce qu'il y a des étrangers, il y a les anciennes colonies africaines, etc., qui forment des militaires. Hein, mais là, c'est plutôt les Antilles, je crois. Non, on le remarque parce que ça m'a touché. On a eu un procès de la France,
parce que c'est exceptionnel.
Systémique, et voilà.
Oui. Mais parce que c'est exceptionnel.
Parce qu'on en parle. Non,
mais exceptionnel,
oui,
attendez.
Parce qu'on en parle aussi en ce moment,
mérite,
je pense.
C'est le mérite. De ce soldat, hein, et il a des états de service qui prouvent bien qu'il est fait pour ce poste.
Oui, mais cela n'est pas la question.
Bien sûr qu'on le remarque. Bien sûr qu'on le remarque. Vous auriez, moi, quand j'allais au Sénégal, du temps de Senghor, et que le ministre de l'Intérieur était blanc, le président de la Cour suprême était blanc, ça me posait un problème. Oui, je trouvais ça exceptionnel. Hein, mais nous, là, on est dans un pays blanc, majoritairement aujourd'hui, ça change et ça bouge. Et ça, c'est un signe que la République, ben, elle permet à chacun de s'élever.
Enfin, un mot, Sandra. Sandra Rogol voulait réagir.
Oui, mais vous aviez raison, Valérie, de prendre l'exemple des femmes. C'est-à-dire que c'est l'exception qui permet de dire circuler, il n'y a rien à voir, puisqu'il y en a un ou une. Ça veut dire que le problème n'existe pas. Alors, le souci, c'est justement que vous seriez incapable de me citer le nombre de généraux de l'armée qui ont suivi le même cursus, qui sont issus des mêmes familles dans lesquelles on est toutes et tous issus de familles militaires. Parce que justement, ils représentent la norme. À partir du moment où vous êtes capable de citer l'exception et qu'elle fait exception, c'est qu'il y a un problème. Je vais rester sur le côté positif du fait qu'il y ait des personnes qui arrivent, mais à chaque fois qu'on est contraint de voir l'exception, c'est qu'il y a un problème réel derrière.
Allez, on en reparlera vraisemblablement. Allez, on va en reparler, Régis, on finit notre...
Non, attendez, oui. Juste une dernière information. Un des grands généraux de la Révolution était noir, je dis ça. C'est pas une exception, vous voyez.
Oui, un, à chaque fois. Vous ne faites que confirmer mon propos. Et
Félix Eboué, gouverneur du Tchad, qui s'est rallié le premier à De Gaulle, était noir aussi.
Allez, on va y revenir. On va revenir sur le sujet du racisme. Sandra Rogol, vous, c'est un coup de cœur pour la Convention citoyenne.
Oui, alors je voulais faire un coup de cœur sur la Convention citoyenne, mais on m'a dit que c'était l'un des sujets
on va
du
parler,
jour.
Bien sûr, oui,
donc je vais faire quelque chose un peu plus large, c'est-à-dire que de la reprise au pouvoir citoyenne, et ça rejoint un peu votre coup de gueule sur l'absence de perspective. Il y a des reprises en main citoyennes. C'est-à-dire que là, on a perdu les grandes lignes parce qu'on a perdu l'idée de démocratie. On a oublié que la démocratie, c'est donner à tous le même accès à la connaissance, le même accès à l'information. Quelque part, un petit peu par inadvertance, c'est ce que ce gouvernement a fait avec la Convention citoyenne pour le climat. Et cette convention, elle a pris la décision de proposer des propositions politiques extrêmement courageuses que ce gouvernement, comme les précédents, était absolument incapable de faire et de prouver qu'on peut se donner un autre avenir, un avenir plus heureux. Et à côté de ça, les citoyens, les citoyennes, à travers les villes de France, sont en train de pousser aussi des projets écologistes dans les plus grandes villes et les villes moyennes de France. C'est aussi bien Lyon que Besançon, Poitiers que Bordeaux. Et on voit qu'il y a une volonté de changement. Oui, les idéaux d'hier ont fait long feu. Oui, l'idée que la gauche ou la droite pouvait changer la France a montré ses grandes, grandes, grandes limites. Aujourd'hui, il y a un nouvel espoir. C'est la démocratie réelle et participative. Alors, à travers le paradigme écolo.
Est-ce que ce n'est pas un leurre, une utopie? On peut se poser la question.
La politique propose des utopies concrètes.
Oui, vous avez raison de choisir ce mot. Est-ce que ça va être concret?
Est-ce que Grenoble vous semble peu concret? Est-ce que la vie de Grenoble vous semble peu concrète? Est-ce que le fait que Grenoble truste tous les classements nationaux sur les villes où il fait bon vivre et les villes où on a envie de vivre vous semble quelque chose d'utopique et pas concret? Moi, ça me semble au contraire très, très concret.
Non, mais c'est sur la procédure, sur cette convention citoyenne, c'est-à-dire ce qui va en ressortir. Mais
on va en reparler après.
Et puis ça va nous amener sur la loi Avia. J'ai été extrêmement choquée par le tweet de Fatima Benomar cette semaine, qui, je crois, est également conseillère dans un arrondissement de Paris. Elle dit « J'espère franchement qu'à l'occasion, les soignants n'épargneront pas ces flics s'ils atterrissent en réanimation. » J'ai trouvé ce tweet absolument abject. Alors, c'est sur Internet. La préfecture de police s'en est saisie en disant « Internet n'est pas une zone de non-droit. Des messages haineux envers les forces de l'ordre ne peuvent rester impunis. » Le préfet de police effectue un signalement à la justice. Effectivement, ça a été signalé sur Pharos. Sont des propos qui ne peuvent pas rester. Et il y en a beaucoup d'autres sur Internet. Mais la justice est là. Il y a un propos indigne.
Elle a été exclue de Twitter, d'ailleurs. Son compte a été suspendu. Oui. Enfin, vous voulez parler de la loi Avia. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, sans loi Avia, il y a des procédures pour des tweets de ce genre.
Absolument.
Donc la loi Avia, ça part d'un très bon sentiment, comme toujours, qui est de lutter contre ce genre de choses haineuses. si, lutter contre les propos haineux sur Internet.
L'intention, Régis, c'est
de la censure.
Laissez-le terminer, François.
Il faut pouvoir lui couper son micro, parce que sinon, on ne pourra pas parler. La stratégie qui avait été employée avec la loi Avia, et qui était mauvaise, c'était de rendre les plateformes Twitter, Facebook responsables. C'est-à-dire qu'elles devaient d'elles-mêmes supprimer tous les propos manifestement illicites, sinon elles avaient des amendes monstrueuses. Et ce qui est frappant, c'est que tous les gens qui gravitent autour d'Internet, tous les avocats, tous les juristes avaient dit « vous allez dans le mur, ça ne marchera pas ». Tout le monde l'avait dit, et le gouvernement s'est entêté, cette loi a été promulguée, et le Conseil constitutionnel, saisi par la droite, a dit la même chose.
A dit
que ça allait trop loin, et que l'amende était telle que, dans le doute, dès qu'il y a une plainte, ou, enfin, pas une plainte au sens pénal, mais une récrimination contre un tweet ou un post sur Facebook, les plateformes allaient le retirer. Quand on voit ce que fait Facebook, dès qu'il y a un quart de fesse, ils enlèvent le post, c'est évident qu'ils allaient tout enlever. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'entêtement du gouvernement à aller dans le mur, alors que tout le monde l'avait dit.
L'amateurisme, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, ce n'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel retoque une loi proposée par le gouvernement. Moi, me sidère. On va y revenir, et vous pouvez réagir, 0826 300 300, à la suppression de cette loi qui a été censurée.
Mais donc, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a des moyens de lutter contre
on va y revenir,
le message dont vous avez parlé, qui effectivement est haineux. Il y a des plaintes et il y a des signalements sur Twitter et Facebook qui font qu'il y a plusieurs personnes qui se plaignent. Les sites regardent.
On va y revenir dans un instant, et avec vous, on attend vos réactions sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, jusqu'à midi, nous parlions de la loi Avia, censurée par le Conseil constitutionnel, une loi mal ficelée. Et là, c'est vrai qu'on peut s'interroger, avant peut-être de parler du fond de la loi, on va commencer avec Régis, vous êtes avocat. Comment c'est possible? Moi, je vous pose la question en tant que citoyenne, que alors le Conseil constitutionnel, il est là pour ça, mais on voit que cette loi, elle a été votée dans l'urgence, avec énormément de réserves. Et le retoquage, je ne sais pas très français, était prévisible.
Valérie, elle n'a pas été votée dans l'urgence. Elle n'a pas été votée dans l'urgence. Elle avait été l'objet d'une première lecture l'année dernière. Et les LR, qui ont été cette fois-ci vent debout, avaient été très flottants. Beaucoup l'avaient approuvé. À partir de ce que dit François, ça part d'une bonne intention. Je suis désolé, ça ne partait pas d'une bonne intention. C'était un projet d'Emmanuel Macron. Le texte était rédigé, mais ils n'ont pas osé déposer un projet de loi. Alors, on a fait une proposition pour que Laetitia Avia le porte. Et donc, l'idée, on a eu la loi fake news, etc. L'idée, elle est véritablement de corseter les réseaux qui constituent aujourd'hui, comme l'avait dit Didier Raoul, qui constituent aujourd'hui une source d'information très importante. Bon, donc, c'était ça. Alors, je vais rappeler le problème juridique, c'est qu'effectivement, la liberté d'expression, c'est la déclaration des droits de l'homme. C'est un contrôle, elle peut être limitée dès lors qu'il y a un intérêt public qui le permet, mais c'est le juge qui doit contrôler. Et que faisait la loi Avia? Elle se mettait entre l'expression et le juge. C'est-à-dire qu'elle faisait, on pouvait faire une pression sur les hébergeurs et non pas sur les auteurs. Et donc, c'était complètement contraire. Mais je crois que de bonne foi, ils ont… Et quand vous voyez qui l'a voté, c'est impressionnant. C'est pour faire le pointage. Non, vous avez raison, mais il y a eu quand même… Vous dites que c'était évident qu'ils allaient dans le mur. Je ne sais pas, moi, j'étais un peu inquiet. Mais quand vous voyez… que votre opinion n'est pas partagée par une très large majorité de l'Assemblée nationale, on a un petit problème avec
ça. Oui, mais au-delà de ça, c'est que ce n'était pas constitutionnel. Elle a été censurée. Alors, Brice Nkanda, elle a été censurée parce que ça a porté atteinte à la liberté d'expression et de communication. Ce n'était pas nécessaire, proportionné au but poursuivi.
Oui, le dispositif, elle a été mal calibrée, cette loi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je connais énormément de gens, et vous le savez aussi, qui en ont marre des contenus haineux sur Internet. Donc, est-ce qu'il y a un besoin? Oui, il y a un besoin. La liberté d'expression, c'est pas la liberté d'insulter. Donc, à un moment donné, on peut exprimer des propos contradictoires en faisant sujet, verbe, complément et en évitant les insultes qui profèrent sur les réseaux sociaux. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a besoin d'une loi de ce type. Il faut quand même le rappeler. Maintenant, la question par rapport à la loi Avia, c'est qu'effectivement…
Pourquoi une loi de ce type? Il y a une loi qui punit les insultes, les agressions.
Mais ça pullule.
Oui, mais elle existe.
Alors, la question,
mais vous voulez quoi comme loi?
Quels sont les moyens qu'on se donne? Le problème, il y a le problème du nombre. Il y en a énormément. Il y a le problème de la durée. Les 24 heures, c'était intenable. Et il y a le problème juridique de confier à une plateforme, aux réseaux sociaux, le choix, la liberté de retirer ou ne pas retirer. Alors qu'en fait, ça doit vraiment être le juge qui s'en occupe. Donc, elle est mal calibrée.
Vous imaginez le nombre d'insultes.
Mais il faut intervenir, il y a trop de haine.
Oui, mais pour être tout à fait juste et honnête et aller jusqu'au bout, Fatima Benomar, elle dit qu'elle a reçu aussi des milliers d'insultes, d'appels au meurtre, au viol.
Donc,
c'est un enfer. C'est très au-delà. Mila.
Allez-y, Sandra. Allez-y, Sandra.
Oui, c'est le très bon exemple que vous avez cité. C'est-à-dire que là, il y a un tweet qui est répréhensible de Fatima Benomma qui est immédiatement sanctionné. Mais elle, quand elle a reçu des menaces de mort, des appels au viol, des messages qui ciblent l'endroit où elle vit, l'endroit où elle travaille pour qu'on aille la chercher, elle a fait un dossier, elle a déposé plainte et tout ça a été classé sans suite. Vous voyez bien qu'on est au cœur du problème. Oui, il faut une loi pour pouvoir agir. Oui, il existe des outils. Mais pourquoi ces outils ne sont pas équitablement traités? Parce que la justice aujourd'hui, elle est exsangue. Parce que la police aujourd'hui, elle est exsangue. Et que donc, il n'y a pas les moyens de traiter. Est-ce que pour autant des entreprises comme Twitter ou Facebook sont en capacité de faire? L'exemple actuel montre que non. Sur Facebook, vous montrez un téton, une fesse ou un sexe, vous êtes immédiatement censuré. En revanche, vous insultez, par exemple, vous me traitez de connasse, il n'y a aucun filtre pour l'enlever. Si vous voulez inciter à venir me casser la gueule, il n'y a aucun filtre pour le censurer. Valérie, vous connaissez très bien ça. Donc on a un véritable souci. Oui, cette loi avait des limites. Oui, ça ne fonctionnait pas, mais on a besoin de trouver un modus operandi pour arriver justement à protéger les gens. Je rappelle quand même que souvent ces raids, puisque le cas de Fatima, comme le cas de certaines de vos invités, parce que c'est généralement plus
c'est
des femmes.
Laurence Taillade, qui a été aussi victime de
voilà,
de
par
sang.
Exemple, ce sont souvent des raids, c'est-à-dire ce n'est pas des personnes comme ça qui, isolées, viennent attaquer, ce sont des centaines de personnes qui enclenchent des milliers de personnes qui viennent vous insulter. Ça, c'est organisé, il y a même des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, ça c'est aussi un moyen d'action.
C'est plus facile peut-être d'arrêter ce type de raid. François Monboise, vous qui connaissez bien justement tout ce qui est Internet, qu'est-ce qui est possible?
C'est pas facile, parce qu'on n'est pas les seuls en France, tous les pays ont la même chose. Donc, je pense que typiquement, là, c'est un truc, il faudrait s'asseoir avec les Anglais, les Allemands, essayer de trouver une solution commune. Je crois que les Allemands ont un système qui marche à peu près mieux.
Qui est la base de la loi Avia.
Oui, mais qui ne va pas jusqu'à la loi Avia, qui ne donne pas les clés totalement.
Et
c'est
qui
ça qu'elle est
très contestée aussi.
Oui, c'est contesté, mais c'est un peu plus efficace. Ce qui n'allait pas dans la loi Avia, c'est de donner les clés complètement à Twitter, Facebook. Pourquoi ils interdisent facilement les quarts de fesses? Parce que c'est facile. Il suffit de programmer dès qu'il y a de la peau nue, on enlève. Ouais. Alors qu'une insulte, c'est plus compliqué.
Il suffit de faire un filtre sur le mot.
Mais non, parce que dans ce cas-là, vous enlevez la quasi-totalité des messages qui ont un gros mot, etc. Mais
ce serait bien.
Donc c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple à faire.
C'est simple.
Donc je pense qu'il faut se mettre en. Moi, je suis pas d'accord avec Régis. Je pense que l'intention. Je continue à dire que l'intention l'a été bonne, et que c'est très différent de la loi fake news, où là je suis d'accord avec Régis, l'intention était épouvantable, c'était en gros de dire que les fake news viennent forcément des Russes et qu'il faut enlever les fake news, enfin c'est ridicule, c'était le ministère de la vérité ça. Ça c'est différent, c'est enlever les insultes, je suis d'accord que c'est un vrai problème, mais c'est pas simple. Les autres pays ont le même sujet. J'ai pas la solution comme ça. Hein. C'est pas évident.
C'est quoi la limite Vous parlez de censure, liberté d'expression. Il y a un moment.
Je reviens sur les fondamentaux. Faut toucher à ça d'une main tremblante, comme aurait dit Montesquieu. Il y a des principes. On a une loi de 1881 qui fonctionne avec une jurisprudence pléthorique. On n'aime pas trop la liberté d'expression en France, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, on aime bien la sienne, et puis c'est la gauche en plus, c'est ce qui est curieux, qui est ma famille d'origine, qui aujourd'hui a une passion de la censure. J'ai horreur quand on vient s'occuper de ça.
Vous qui êtes avocat, il y a des insultes et des menaces de mort, des menaces de viol, on n'est pas dans la liberté d'expression, on ne peut pas tout dire.
Mais Brice l'a dit, c'est une question de moyens. Alors, on cite Fatima Benomma, que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur votre plateau, mais on oublie Mila. Mila, c'est des dizaines de milliers de messages et il n'y a pas eu derrière.
Oui, mais là, la justice est en train de condamner.
Non, elle ne condamne rien du tout pour l'instant.
Vous prenez l'exemple plutôt positif.
Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Il n'y a pas un procès, les gens ne sont pas mis en...
Attendez, pour l'instant, il y a des poursuites pour une demi-douzaine de personnes, il y a eu des dizaines de milliers de menaces de mort, et donc, effectivement, ça pose la question des moyens. Ça pose la question des moyens, et il faut les donner à la justice. Vous avez raison, elle est en déshérence, cette justice, c'est épouvantable. La sortie du confinement, je ne vous dis pas.
Donc on n'aura pas eu de réponse.
C'est
bien évité de donner la réponse à la question de Valérie.
Mais pas du tout, je dis, c'est donnons des moyens à la justice, puis c'est tout.
C'est ce que j'avais dit, mais on avait dit court.
Allez, on se retrouve dans un instant, on continue avec vous sur Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Nous parlons de la Convention citoyenne. Au travail, donc depuis 9 mois, les membres de la Convention citoyenne pour le climat sont appelés à choisir dans les prochains jours des propositions qu'ils vont transmettre à l'exécutif. Rien n'a encore décidé. Il y a 150 membres dans cette convention. Et on a évoqué, le président de la République a évoqué un référendum. Alors, on ne sait pas très bien sur quoi. Est-ce que ça va être sur l'isolation des fenêtres? Est-ce que ça va être sur le bio à la cantine? Bon, la je caricature. Sur la totalité? Non, ben non, justement. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qu'attendaient les Gilets jaunes, puisque c'est sorti, évidemment, de ces rencontres qui ont été faites? Sandra Rogol, vous êtes optimiste. Je ne dirais pas utopiste.
Je ne sais pas si je suis optimiste. Ouais. Ce qui m'a optimiste, c'est que malgré ce que pensait ce gouvernement, quand on donne des outils aux citoyens et aux citoyennes, en fait, ils en font quelque chose de super. Je rappelle que lors de la 4e réunion de la Convention, Emmanuel Macron est venu les rencontrer et leur a expliqué que s'ils n'étaient pas capables de faire un chiffrage digne de ce que font les politiciens très entraînés au Parlement, eh bien, en fait, ce ne serait pas recevable. Donc, ouais. Ce sont des citoyens qui n'avaient rien demandé, qui n'avaient pas demandé à être dans cette convention, qui n'avaient pas demandé à travailler sur l'avenir de la planète, qui se sont retrouvés à travailler comme des fous et, j'ai envie de dire, beaucoup mieux que nombre de politiques qui figurent dans nos assemblées.
C'est pas sûr.
Et si, vous verrez la qualité du travail, il est excellent. Ça propose un projet global. Ça propose un projet global. Et ce président qui avait, vous preniez l'exemple de la rénovation thermique avec les fenêtres, tout ça. Moi, je me souviens que quand Emmanuel Macron est élu en 2017, ça fait partie de ses propositions. Oui, c'est-à-dire que d'ici 2022, on doit avoir fait la moitié des rénovations thermiques à peu près. Là, aujourd'hui, il est en train de dire, ah oui, très intéressant les rénovations thermiques. Peut-être qu'on va d'abord les soumettre à référendum pour savoir si on va les appliquer. C'est-à-dire que même sur ses engagements de campagne en matière environnementale, il préfère décaler encore d'un an. On est tous d'accord qu'un référendum, ça repousse encore.
C'est pour l'obligation,
voilà.
C'est pas pareil.
Non, mais il a le choix. Il a la possibilité de passer directement devant les parlements la discussion sur le projet que proposent les citoyens. Pourquoi ne le fait-il pas? C'est un choix politique et ça dit beaucoup.
Alors,
mais attendez, on ne sait pas ce qu'il va faire, il n'a pas dit. Moi, je comprends que vous soyez enthousiaste sur la Convention citoyenne, parce qu'en gros, c'est toutes les propositions Europe Écologie Les Verts.
Tout à fait.
Il n'y en a pas une que vous désavouez, je pense, là-dedans.
Non, non, c'est preuve que quand on donne aux gens tous les outils, ils arrivent à la même conclusion pragmatique que nous.
Une dame l'a dit à France 5, nous, on n'avait pas les solutions, mais il y avait des experts qui les avaient. Ouais. Donc, je pense que les gens sont arrivés avec le catalogue. Mais il y a des choses bien. Il y a des choses sur la rénovation des logements. Je suis d'accord avec vous qu'il faut s'y mettre. Je ne sais pas si c'est la façon de faire, mais il y a des choses bien. Il faudra regarder et faire le tri. Donc, on sait. Moi, il y a un peu beaucoup de choses, quoi. La semaine de 4 jours payée 5, je ne vois pas le rapport avec le climat. Et ça décrédibilise un peu l'édifice quand même.
Ah mais si, ça veut dire faire moins de trajets, améliorer la qualité de vie.
C'est pas sérieux.
Projet global, que c'est sérieux.
Non mais voilà, ça tue le tout à mon avis. La semaine de 4 jours, pourquoi pas 3?
On parlait hors antenne juste avant de la difficulté qu'avaient les salariés aujourd'hui à retourner dans leur bureau. Il y a des vrais questionnements qui émergent du coronavirus.
Il s'agit de travailler 4 jours. 4 jours, payer 5.
Moi je vais mettre les pieds dans le plat, mais je trouve qu'on n'y va pas carrément sur cette histoire de consultation citoyenne. Pourquoi sur France 2, on n'a pas un débat contradictoire avec des experts, des citoyens, pour éclairer le grand public. Et même, effectivement, s'il y a 150 personnes, c'est pas mal. Oui. Mais il faut faire grandir la conscience citoyenne avec un débat qui soit plus ouvert, complexe, pour faire comprendre que tous ces sujets-là sont compliqués.
Un débat complexe, c'est en direct à la télé, vous le savez aussi bien.
Parce que je ne suis pas sûr que les gens aient vraiment compris ni sachent exactement de quoi on parle,
exactement,
de ce dont il s'agit.
Alors là, effectivement, comme ça a été dit, ça rejoint vraiment à 100% le programme d'Europe Écologie Les Verts. Après, je doute qu'il y ait des personnes qui soient favorables à la baisse du temps de travail de 35 heures à 28 heures. Donc, en fait, le référendum, il portera sur quoi? Si c'est sur les logements, pourquoi pas? Effectivement, il peut y avoir un consensus. Sur d'autres propositions, c'est plus compliqué. Donc, on re-rentre encore dans la complexité. Moi, je pense que s'il doit y avoir un référendum, il faut d'abord que les 100 propositions passent par le prisme du Parlement, pour que ce soit un peu étayé, parce que contrairement à ce que vous dites, je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui font du travail, mais après, ont-ils les moyens de le mettre en œuvre? Après, il y a le calendrier électoral, etc.
Donc, je pense que le Parlement a quand même la légitimité. un ciel, qu'on a la majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'on tient l'ensemble du gouvernement, on a largement les moyens de le faire.
Non, je ne dis pas que le travail qui a été fait est mauvais, il est bon, mais il faut pouvoir faire passer ce travail-là par le prisme des commissions parlementaires, etc.
Alors pour qu'ensuite on ait un produit qui sera... Pourquoi la convention a été mise en place si c'est pour après discuter de ce qu'elle accouche ?
Ça peut être un outil politique aussi, la convention, pour retarder.
Un outil de communication.
Mais oui, évidemment.
Et c'est là où le bât blesse.
Régis de Castelnau.
Je constate une chose, je ne vais pas dire intervenir trop sur le fond, sur les mesures qui sont préconisées. Effectivement, le confinement, ça a été aussi le moyen de poser un certain nombre de questions. La question des transports, la question de la baisse du temps de travail, la question du télétravail, je trouve, sont des questions très importantes. Mais qu'est-ce que je constate ? Qu'immédiatement, ce président s'empare de la question et fait une manœuvre politicienne en nous parlant d'un référendum. Alors, tout le monde s'est moqué sur l'isolation des fenêtres. Effectivement, vous avez raison, il a au Parlement la majorité que je déplore, mais qui pourrait être efficace. Non, on nous annonce un référendum, ce qui est un moyen de faire basculer des questions essentielles dans la politique politicienne. Tout ça est dommage, mais je crains fort de nouveau des enlisements dans une situation en plus qui, économiquement, va être très compliquée.
Oui, les propositions sont plutôt dans le sens de la décroissance, tout ce qui est proposé.
Alors, elles sont dans le sens d'une sortie des logiques actuelles, mais ça ne veut pas forcément dire la décroissance, en tout cas pas au terme, pas de façon vulgaire de plus rien ne se passe, bien au contraire. Ce qu'ils proposent, c'est de développer des nouveaux secteurs d'activité à travers les territoires et plus respectueux des rythmes de vie et des personnes. En fait, ce qu'ils proposent, c'est de créer des centaines, des millions d'emplois, et je pense qu'en sortie de crise, on en a largement besoin. Après, pour revenir sur l'aspect très politicien, c'est vrai que on a l'impression que, en gros,
ça sent un peu la manip, quand
même. Qu'Emmanuel Macron est en train de préparer le moment où il dira pour le. Ben, tout ça, c'est merveilleux ce qu'a fait la Convention citoyenne que j'ai mise en place. D'ailleurs, dans mon prochain mandat, dans mon prochain mandat, si vous me réalisez, je mettrai tout ça en place. Et là, on va très très loin dans le cynisme. Ouais. Alors qu'à côté de ça, je vous rappelle que les scientifiques alertent sur le fait qu'il nous reste 9 ans pour agir, mettre en place des politiques publiques de résilience, d'adaptation au réchauffement climatique. On nous prédit encore une canicule pour cet été. Ça commence à devenir fréquent. On nous promet même d'autres épidémies et pandémies du type de celle qu'on vient de vivre. Je pense que là, c'est une façon de gagner du temps qui confine au danger absolu.
Oui. Absolument. Bon, je voudrais qu'on passe à un autre sujet. On avait beaucoup de sujets aujourd'hui. Parler quand même de cette affaire Fillon, le procureur qui admet des pressions lors d'une audition donc le 10 juin dernier devant la commission d'enquête parlementaire. L'ancienne procureure Éliane Houlette a indiqué avoir subi des pressions de la part du parquet général dans l'affaire Fillon. C'est vrai que quand on lit dans le point ses propos, on est un petit peu par le canard enchaîné. On est assez sidéré de ce qu'elle raconte. Elle dit qu'elle a eu des demandes de transmission rapide sur les actes d'investigation ou les auditions, et elle a révélé avoir été convoquée par le parquet général qui plaidait pour que l'enquête soit confiée à un juge d'instruction. On ne peut que se poser des questions. C'est un contrôle très étroit, c'est une pression très lourde. Pourquoi est-ce qu'elle n'en parle que maintenant ? Là encore, préparation, prévision de l'élection présidentielle ?
En tout cas, ce qu'on
ça
peut...
tombe quand même à... C'est très toujours... étonnamment, c'était il y a 3 ans quand même.
Il faut qu'une enquête soit conduite, et si effectivement les faits sont avérés, c'est quand même scandaleux. Parce qu'on change le sort démocratique de toute une nation. Parce qu'un duel François Fillon-Emmanuel Macron au deuxième tour, on n'est pas sûr qu'Emmanuel Macron serait passé. Donc on voit qu'on a eu 2017 et finalement pendant les années qui ont suivi, on n'en a plus trop parlé. Et puis là, effectivement, hasard du calendrier, ça ressurgit. On peut encore une fois se poser des questions.
Mais on se demande pourquoi elle ne l'a pas fait avant.
Enfin, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant ?
C'est parce que c'est au cours d'une audition. C'est au cours
Valérie,
d'une audition.
C'est l'occasion qui fait le larron.
Valérie, moi, je rigole. Je rigole parce que sur votre plateau, ma chère Valérie, qu'est-ce que j'ai pris quand très tôt j'ai dit ce genre de choses en disant que c'était un raid judiciaire qui avait été fait. J'ai une certaine expérience de la chose. Et puis j'avais totalement raison.
Comme le professeur.
Donc aujourd'hui, je jubile. Et franchement, je rigole. Madame Houlette, on va quand même rappeler qu'elle quitte le PNF il y a un an et qu'elle fait une grande interview chez Marianne avec Laurent Baldiguier. Elle dit le titre « Je n'ai jamais subi aucune pression ». Et aujourd'hui, elle dit exactement le contraire. Alors qu'est-ce qu'elle raconte sur le fond ? En creux, c'est un aveu. C'est un aveu que cette procédure, mais je veux dire, ça se voyait pour quelqu'un qui connaissait de la musique, ça se voyait dès ce moment-là, hein, il y a eu une opération visant à disqualifier François Fillon et effectivement, ça a réussi. Ça jette une sacrée ombre sur cette élection présidentielle. Ouais. Hein, et pourquoi ? Alors, deuxième question.
Mais pourquoi elle n'a pas parlé ? Pourquoi elle n'a pas parlé avant ? Pourquoi elle a fait
alors,
cette interview ?
Voilà,
je n'ai pas eu de pression dans ce cas-là. On démissionne, on reprend le terme de chevènement. Bon. Hein,
Je pense que mon opinion, je ne la connais pas personnellement, mais mon opinion, c'est qu'effectivement, ça pèse assez lourdement, ça met une drôle d'ambiance, y compris dans le monde judiciaire, parce que chacun le sait, il y a quelques livres qui sont sortis, et puis il y a des gens qui commencent à parler. Hein. Et donc, je pense que c'est une façon de pointer la responsabilité des autres. Hein. Parce que, si vous voulez, juste un tout petit exemple. Elle dit, oh, c'est magnifique, elle dit « je ne lis pas les journaux ». Ah, très bien, sauf que c'est le Canard enchaîné qui sort un article et c'est sur la base de cet article qu'elle ouvre son enquête. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, tout s'est retrouvé dans la presse. Donc, l'enjeu, c'est qui l'a envoyé à la presse. Donc, comme elle sait qu'il y a de lourds soupçons, alors il n'y a jamais eu une enquête derrière, malgré les plaintes de Fillon, comme elle sait que de lourds soupçons pèsent sur elle et que peut-être tout ça va finir par éclater, donc elle pointe les autres. Moi, je pense que c'est un petit peu ça, mais c'est dévastateur. C'est dévastateur.
François, et je pense qu'il faut aller plus loin, là. C'est-à-dire qu'il faut que la commission d'enquête convoque les gens qui étaient au parquet à cette époque-là. On ne peut pas laisser ça comme ça. Là, on parlait de la démocratie, est-ce qu'il ne va pas bien dans la démocratie, on ne peut pas le laisser. Il faut aller au plus loin maintenant.
Mais pourquoi on a un problème,
c'est la séparation des pouvoirs. Je ne vois pas qu'une commission d'enquête parlementaire puisse s'intéresser à la façon dont la justice a fonctionné. Moi, ça me semble...
Il va bien falloir le faire, non?
Alors, il y a quand même, pour mettre un petit bémol, elle explique, quand elle débat le tout, qu'il y a eu une demande d'accélération, de rapidité, mais que la seule pression qu'elle ait subie, c'est sur les modalités d'une procédure. Mais elle n'explique pas qu'elle a eu, quand on lit les verbatim des entretiens, elle n'explique pas qu'elle a été harcelée ou etc. Ce qui n'enlève rien au reste, mais c'est sur un choix de procédure. Mmh. Après, j'ai envie de vous dire qu'il y a deux choses qu'on oublie dans cette affaire. Un, ça s'appelle l'immunité parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a eu des jurisprudences, des personnes qui n'ont pas pu être poursuivies, et on en parlait tout à l'heure de l'affaire Karachi, qui vient de se terminer sur une condamnation de l'ensemble des acteurs politiques de l'époque. Cette enquête ne pouvait pas avancer du fait de cette immunité de personnes qui étaient à la tête de l'État, à la tête du gouvernement, et on peut légitimement se dire... que une fois ces affaires passées, une fois toute cette multiplication d'affaires, dont certaines sont encore en cours pour d'autres affaires, oui, la justice et le parquet et des politiques peuvent s'inquiéter du fait que certains politiques attendent d'avoir des postes qui les protègent pour ne plus être touchables. Et je ne dis pas que ce que disent la procureure soit faux, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de problème sur l'affaire Fillon, mais je dis qu'on a un problème global dans cette immunité parlementaire qui fait que beaucoup d'hommes politiques, et sur l'affaire Karachi, on est quand même dans le même camp que Fillon, je suis désolée, en ont profité pour de l'argent sale, pour des petits arrangements entre amis et généralement familiaux, et pour s'enrichir personnellement sur le dos de la République, ou pour avoir des voix qui n'existaient pas. Ouais. Et tout ça, aujourd'hui, ça salit la politique, ça fait qu'il y a de plus en plus d'abstentions, et à un moment donné, on est en droit de demander des comptes. On a les politiques comme les policiers, un devoir d'exemplarité supérieur à la moyenne.
Mais est-ce qu'une enquête judiciaire est possible ? C'est Éric Ciotti qui a saisi le président de la République et la garde des Sceaux. Il demande à ce qu'on ouvre une enquête judiciaire pour forfaiture. Ça vous semble...
C'est très politique, pour le
c'est
coup.
C'est
très politique.
Le mot est dur. Oui. Mais ce qui est vrai, je suis d'accord avec Sandra Rigol, c'est que la justice a beaucoup moins de pouvoir vis-à-vis des politiques qu'aux États-Unis, par exemple.
Ouais.
Aux États-Unis, la justice convoque des ministres, convoque des gens, et ils prêtent sous serment, et on ne ment pas aux États-Unis.
Mais c'est la France. Ce qui se passe... Attendez, c'est ce qui se passe chez nous, les politiques sont...
Les ministres
Les ministres, oui, ils le sont aussi. Non, je pense qu'il faut...
Et sur avant l'immunité, de provoquer le recours...
Il faut faire très attention. C'est quoi l'immunité parlementaire ? L'immunité parlementaire, c'est de protéger les parlementaires d'opposition des ingérences du pouvoir exécutif. Voilà. C'est ça au départ. Hein. Et, elles sont facilement levables, etc. Non. Je pense qu'il y a eu des procédures. Quant aux procédures concernant Karachi, écoutez, moi je veux bien, 25 ans, c'est pas seulement hein, parce qu'il y avait des immunités. Ce n'était pas les immunités, c'est n'importe quoi. Hein. On ne juge pas et c'est une décision anachronique. Mais surtout, vous dites que c'est le même parti que M. Fillon, bon, sauf que c'était il y a 25 ans. Mais si vous voulez, hein, si moi je veux bien, on se fait un grand appel.
Et Sarkozy et Big Malion, c'est le même parti. Dites, c'est tous les je peux faire une kyrielle d'affaires si vous voulez. Malheureusement, il y en a beaucoup.
Attendez, Sandra. Moi, si vous voulez, on parle des vedettes de Taïwan. Je sais quels sont les parlementaires socialistes qui sont revenus avec les valises de billets.
Je ne suis pas socialiste, vous pouvez dire ce que vous voulez.
Non, attendez.
Il y a d'autres choses chez vous, peut-être, dans
l'Europe écologique. Il y a la fin Beaupin. Je peux vous dire comment ce que c'était que le GIFCO, que j'ai bien connu pour les communistes. Si vous voulez, tout ça, je veux dire, c'est cette façon.
On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. 47% des Français pensent que le racisme anti-blanc existe. C'est un sondage IFOP Fiducial pour Sud Radio et CNews à suivre dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Je suis avec François Monboise, Régis de Castelnau, Sandra Rogol et Brice Nkanda. 47% des Français pensent que le racisme anti-blanc existe. C'est un sondage IFOP Fiducial pour Sud Radio et CNews. Beaucoup de questions dans ce sondage. Est-ce que, alors après Nkanda, on avait évoqué cette question du racisme anti-blanc. C'est vrai que c'est une autre manière de puisque ça a été quand même sur le devant de l'actualité et ça y est encore. 32% pensent qu'il existe dans notre pays un privilège blanc et 30% pensent qu'il y a un racisme d'État. Mais les plus âgés considèrent à 60% que ce sont des faits marginaux. Alors, est-ce que ce sondage vous étonne ?
Bon. Qui m'étonne, non. Qui m'étonne, non. En revanche, je pense que la mécanique est beaucoup plus subtile que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a une communautarisation de la société, ça oui. Ouais. On a effectivement des communautés. En fait, notre mécanisme d'intégration a dysfonctionné pendant des décennies. Effectivement, on a des gens qui se sont retranchés dans leur communauté. Et ce retranchement, en fait, fait qu'à un moment donné, on a une communauté contre l'autre, etc. Alors que, en fait, je dirais que c'est plus une question de discrimination que de racisme. C'est-à-dire que quand on regarde certains quartiers, ben les professeurs les moins expérimentés ils vont dans les quartiers, les policiers les moins expérimentés vont dans les quartiers. Donc on a un travail, il y a un travail qui a déjà été amorcé avec les conventions ZEP de Sciences Po. Bon, il y a des choses qui font qu'on a peut-être des éléments et des modèles qui commencent à émerger. Mais j'ai envie de dire que de manière systémique, il y a encore un gros travail à faire. Et en fait, la résultante, on peut effectivement dire qu'il y a des gens qui considèrent qu'il y a un racisme anti-blanc. Mais pour analyser le problème, il faut aller à la cause. Ouais. Et la cause, c'est le fait que notre système d'intégration a été grippé pendant trop longtemps et qu'on a du mal à le dégripper rapidement. Donc on se retrouve avec une situation qui est vraiment écœurante parce qu'on a d'un côté les Noirs, les Arabes, les Blancs, les uns considèrent que effectivement quand on regarde les conséquences, il y a pas mal de problèmes. Ouais. Mais il faut retourner à la cause pour essayer de détricoter tout ça, c'est pas évident.
Non. François Monboise, racisme anti-blanc.
Il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que oui, de même qu'il y a un racisme anti-noir, anti-asiatique, etc., il y a un racisme anti-blanc, parce que sinon, ça voudrait dire que la couleur blanche est la seule contre laquelle il n'y a pas de racisme. Donc, ça la met à part des autres. C'est
un postulat philosophique.
Que, ouais. Voilà, c'est un problème philosophique et un peu bizarre. Donc, je suis d'accord que dans un pays majoritairement blanc, ce n'est pas la chose la plus visible. Mais oui, ça existe. Et maintenant, ce que vous venez de dire est vrai. Il y a des différences. Et le problème, c'est qu'on importe, à propos d'un fait divers épouvantable aux États-Unis, le débat qui vient des États-Unis. Et on replique les mêmes attitudes qu'aux États-Unis, alors que l'histoire est très différente quand même. Mmh. On n'a pas le passé. On a un passé colonial, certes, mais on n'a pas un passé d'esclavage. Avec une ségrégation. Pas
de ségrégation. En France, bien sûr.
Mais pas comme aux États-Unis, c'est pas possible.
Quand est-ce qu'il y avait des esclaves en France ?
On n'a pas 20% de la population sur le territoire qui est descendant d'esclaves, c'est pas vrai. On n'a pas de la ségrégation dans les bus jusqu'en 1962 aux États-Unis, c'était ça. On n'a pas ça.
Quand est-ce qu'il
y a eu des esclaves en France ?
Moi, je suis pas d'accord.
Quand est-ce qu'il y a eu des esclaves en France ?
Régis.
Est-ce qu'il y a eu de l'esclavage en France ?
Il y a encore eu des cas récemment dans des très grandes familles, des beaux quartiers parisiens.
Oui, mais ça c'est autre chose.
Vous avez tout à fait raison. Bordeaux, Nantes, qui ont prospéré sur ce commerce-là.
Non. Attendez. D'accord.
D'ailleurs, la ville de Bordeaux vient d'instaurer des plaques pour rappeler le passé esclavagiste de la ville.
Ça c'est tout à fait exact. Ça c'est tout à fait exact. Mais en France, par principe, tout homme qui, depuis les Francs, mettait son pied sur le territoire français, était un homme libre. Bon, donc comme aux États-Unis. Récemment.
Sauf s'il n'était pas blanc. Il y a
eu récemment. Non. Il n'y a jamais eu de racisme juridique installé en France.
Donc il n'y a jamais eu de code noir. C'est ça que vous expliquez.
Le code noir. Le code noir, c'était pour les colonies. Enfin, il faut. L'analphabétisme historique, il faut arrêter, c'était un progrès qu'on arrête de
traiter. Non, instaurer la hiérarchie des races,
c'est un progrès. Mais enfin, écoutez, c'était au XVIe siècle, hein, et on fait porter la responsabilité à Colbert, qui était mort 2 ans avant. Non, ce que je veux dire, il faut
mais oui, mais vous dites
pas
que ça n'a jamais
été.
Mais là, on change de sujet.
La France,
on est en train de parler.
Mais c'est un sujet à part. Attendez, si je peux parler, parce qu'on a la doxa qui défère, là, je veux dire, c'est bon, il n'y a pas de racisme institutionnel en France. C'est faux. Bon, dans les colonies, évidemment, dans nos colonies où il y avait des esclaves importés, Robespierre abolit l'esclavage, Napoléon le restaure. C'est parfaitement exact. Ensuite, en Afrique, le sort des populations africaines de nos colonies était très proche de l'esclavage. J'en suis parfaitement d'accord. Aujourd'hui, le problème qu'on pose avec toutes ces histoires racisme anti-blanc, je ne crois pas à un racisme anti-blanc, je pense qu'il y a des contradictions communautaristes, et Brice a parfaitement raison, hein, parce qu'on a laissé prospérer un certain nombre de modes de fonctionnement qui sont en train de transformer la société française en société communautaire. Je pense que le problème, il est d'abord social. Hein, je ne crois pas à la lutte des races, je crois à la lutte des classes.
Oui, c'est la lutte des races théorisée par Manuel Valls.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème de chauvinisme, de xénophobie, etc. Ça, je suis parfaitement conscient de ça, qui aussi peuvent prendre des tournures racistes, parce qu'il y a des gens qui sont racistes, évidemment. Il y en a, y compris dans la police, je suis le premier à le dire. Mais je veux dire, aujourd'hui, racialiser tous les problèmes comme ça, je pense que c'est une erreur.
Oui, c'est une erreur. Ouais, alors Sandra.
C'est bien parce qu'on est en plein cœur du problème avec ce petit échange sur la relecture de l'histoire esclavagiste de la France. Vous connaissez le théorème de la fenêtre d'Overton. C'est balancer dans les médias, de façon complètement délibérée, des choses totalement fausses, où du coup les contradicteurs sont obligés de corriger, mais il en reste toujours un petit peu à la fin. Et là, on est dans une séquence où on a droit, tous les jours, à du relativisme sur l'histoire de l'esclavage en France, sur l'histoire de la colonisation en France, etc. Et pour répondre à votre question... Oui, il y avait des esclaves en France, et malheureusement, il y a encore du trafic d'esclaves aujourd'hui.
Les villes portuaires, déjà.
C'était des marchés d'esclaves.
Des marchés, au sens objet.
Si je peux continuer sur votre question, d'origine, c'est que on a avec cette façon de dévoyer les mots, on confond les choses. Il y a des insultes contre les personnes blanches en France qu'il faut dénoncer. Mais le racisme, c'est quelque chose de systémique. C'est-à-dire que là, vous avez 2 études hier qui viennent de sortir qui montrent qu'il y a des coups et blessures portés sur les personnes parce qu'elles sont juives, parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont...
Parce qu'elles sont blanches aussi.
Marginales. Ce n'est pas une constitution...
Dans les quartiers, c'est pas marginal.
Ce n'est pas une constitution globale. Mais ce n'est pas une constitution globale du pays. Regardez les chiffres. Il y a des insultes, il y a des coups qui sont menés.
Tout n'est pas déclaré
dans les chiffres. L'étude vient d'être menée de façon très large. Je veux bien que tout le monde connaisse mieux que le travail que font les scientifiques tous les jours sur le terrain.
Mais à un moment donné, il faut avoir un peu d'humilité. Ce n'est pas des scientifiques. Et vous avez certains sociologues qui sont aussi
Quand le CNRS fait les études, ce n'est pas scientifique.
Non.
Alors, vous êtes plus grande scientifique sur le CNRS, Valérie.
Sur la sociologie, vous avez des sociologues qui sont...
De tout et leur
contraire. Des sociologues du CNRS ne sont pas des scientifiques. Ce n'est pas des scientifiques, ce sont des sociologues.
Et en fait, quand ils quantifient le nombre de personnes à qui il arrive tel type de cas,
je pense que comme dans
les
sondages, vous pouvez tout à fait orienter la façon dont vous comptez les choses.
Et puis il y a des sociologues de tout et du contraire.
Mais alors, si vous faites du relativisme sur tout, plus rien n'existe.
Bah, on est dans un monde relatif, alors, de toute manière.
Juste
Xavier,
notre auditeur, qui nous dit « Le racisme anti-blanc existe, moi je l'ai vécu en Martinique, on m'a fait sentir souvent que l'esclavage était de ma faute, il a travaillé comme journaliste là-bas et on contestait ses décisions, qu'on contestait, et puis qu'il a eu subi des violences parce qu'il était blanc. Bon, voilà, alors, c'est un témoignage.
Moi, j'aimerais simplement dire que des gens qui sont profondément racistes, idéologiquement, il y en a très peu, en réalité.
Oui, bien sûr.
Et que, en fait, je reviens sur ce que je disais, c'est que le vrai sujet, c'est celui des discriminations à l'embauche, au logement, etc., qui sont une forme qui est le résidu du racisme, de manière, et qui n'est, comment dire, qui est difficile à percevoir. C'est pour ça qu'il y a eu le débat sur les statistiques ethniques, que je préfère appeler, moi, statistiques de la diversité, qu'on peut pratiquer en France, d'ailleurs.
Donc, vous allez dans mon sens, puisque l'exemple de l'immobilier, vous n'avez personne qui se retrouve refuser un appartement parce qu'il ou elle est blanche.
Et je rappelle que les plus discriminés sont les personnes handicapées, que ce soit pour le travail pour les logements.
Il faut toutes les combattre.
Allez, pour les femmes. Merci à vous. Dans un instant, André Bercoff. Bonne journée sur Sud Radio.